Nous abordons un nouveau chapitre de la doctrine, si vous voulez, dans l'ordre des choses de la théologie systématique, comme on l'appelle, après la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude de l'esprit. Nous arrivons maintenant à l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. Bon, l'anthropologie, c'est une science, et c'est aussi un chapitre de la philosophie. Alors, il nous faut tout de suite limiter notre compréhension de cette expression, sans vouloir négliger les découvertes de la science dans ce domaine-là, ce ne sera pas évidemment notre sujet. Et malgré tout le respect qu'on doit à ces messieurs, les élucubrations des philosophes ne nous intéressent pas. C'est-à-dire que nous n'aborderons en aucune manière l'anthropologie du point de vue philosophique, mais essentiellement du point de vue de la Bible, qui est le seul domaine qui nous intéresse. Il s'agit donc pour nous de connaître l'homme au point de vue de Dieu, selon la révélation de l'Écriture. Il s'agit pour nous de nous défaire de toutes les fausses représentations de l'homme, qui sont précisément les représentations de la philosophie, et ceci nous amène à ensuite, à étudier les doctrines du péché, du jugement, et ensuite de faire la transition entre ce chapitre-ci et un autre grand chapitre de la théologie systématique, qu'on appelle la sotériologie, c'est-à-dire l'étude du salut. Au soter, salut en grec. Donc, premier point de notre étude ce soir, l'origine de l'homme. Et cela, bien entendu, il nous faut repartir au premier chapitre de la Genèse, premier verset, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Comme le faisait remarquer un professeur Eldad à Jérusalem, c'est une des affirmations les plus extraordinaires de la Bible. En fait, il y a tout dans ce verset, car nous avons ici précisément tout ce qui fonde la doctrine de l'homme. Au commencement, Dieu, l'un, l'unique, il crée. Et à partir du moment où il crée, il y a un dualisme. Il crée le ciel et la terre. Le ciel est premier, et la terre vient ensuite. Et il y a, bien évidemment, dans le point de vue de Dieu, une harmonie entre le ciel et la terre, ainsi que nous le voyons dans le récit de la Genèse. Et cette création de la terre, qui nous est longuement décrite dans le premier chapitre de la Genèse, passe par différentes étapes, au cours desquelles naissent les végétaux, puis les animaux, c'est-à-dire toutes des réalités qui sont des réalités terrestres. Cela fait partie de ce que la Bible appelle la création de la terre. Et quand les animaux ont été créés, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et comme l'ont noté tous ceux qui ont étudié le texte de la Genèse de près, lorsque nous arrivons à cette création de l'homme, nous trouvons un mot hébreu qui n'apparaît qu'une seule fois ailleurs dans le récit de la Genèse, c'est-à-dire précisément dans le premier verset. « Bereshit bara Elohim » « Dieu créa ». Ça veut dire « il crée ex nihilo », il crée à partir de rien. Et quand il s'agit des autres créations ultérieures, la création des luminaires, la création des végétaux, la création des animaux, il y a un autre mot qui est employé par la Bible, le mot « assa », il fit. Mais quand nous arrivons à la création de l'homme, nous retrouvons le mot qui était au commencement « bara ». Et le texte biblique ici veut dire que la création de l'homme est une création nouvelle, d'un être tout à fait différent de tous ceux qui sont apparus jusqu'alors depuis le bara initial. En quoi Cet homme est-il donc une création nouvelle? Eh bien, d'abord, cet homme-là, il est de la terre. Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains, le premier homme créé de la terre est terrestre. Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Il est terrestre. D'abord. Et en cela, il est, comment dirais-je, dans la lignée des animaux. D'ailleurs, Paul emploiera cette expression qui est une traduction que je n'aime pas, mais que j'emploierai quand même ici pour notre propos ce soir. Il est animal, l'homme animal. L'homme est proche des animaux dans ce qui est terrestre en lui. Ce qui ne signifie pas, nous allons le voir dans un instant, que la Bible croit à l'évolution, loin s'en faut. Mais l'homme est d'abord tiré de la terre. Puis, dans cet homme qu'il avait formé de la poussière de la terre, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, un esprit de vie. Ou encore, on peut dire, comme dit l'apôtre Paul, un esprit vivifiant. Et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Mais un être vivant tout à fait particulier. Il est de la terre dans son corps, mais il reçoit de Dieu directement un esprit de vie. Il reçoit cet esprit de vie du ciel. Et ce faisant, il est du ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est pourquoi l'homme est le couronnement de la création de Dieu. Car il y a des corps célestes qui n'ont rien à voir avec la terre, les étoiles, les luminaires. Et il y a des créatures terrestres qui n'ont rien à voir avec le ciel, les plantes, les animaux. Mais l'homme est à la fois de la terre et à la fois du ciel. Il est, et c'est sa vocation, il est appelé à être un trait d'union entre le ciel et la terre. Celui qui donne à l'univers son harmonie. Et c'est pourquoi je crois qu'il nous faudrait relire ici le magnifique passage de Pascal dans les pensées, je n'ai pas pensé le prendre ce soir, où Pascal évoque ce texte magnifique à la fois la grandeur et la petitesse de l'homme. Et Pascal aura cette réflexion, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Et Pascal évoque cette faiblesse de l'homme. Un rien le tue. L'univers peut l'écraser comme une mouche. Et pourtant, quand bien même l'univers l'écraserait, l'homme est plus grand que l'univers, car il sait que l'univers l'écrase, tandis que l'univers ne sait pas qu'il l'écrase. Donc, le ciel et la terre. L'homme est donc appelé à être cela, cet couronnement de la création de Dieu. Et puis, malheureusement, nous allons voir ça plus tard dans la suite de cette étude, mais j'anticipe un peu, le péché va intervenir dans le monde. Et cette unité, cet équilibre que l'homme devait maintenir entre le ciel et la terre est rompu. L'harmonie est rompue. L'harmonie est rompue entre le ciel et la terre. Et Paul pourra dire plus tard, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise à la vanité, non pas à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'a soumis à la vanité, l'homme. L'homme qui était destiné à être la conscience du monde. Comme l'a bien vu Pascal, l'univers n'a pas conscience de lui-même. Mais il y a un être qui peut jeter un regard sur l'univers et qui peut donner, en quelque sorte, une conscience à l'univers. L'homme est capable de discerner cet univers, d'en voir les beautés, la complexité, la profondeur. Il est capable de louer le Seigneur pour cette création, comme nous le voyons dans nombre de psaumes, où il nous est dit « Louez-le, soleil, lune, étoile, louez-le, vous, oiseaux du ciel, poissons de la mer, monstres marins, etc. » Et l'homme, dans son péché, redevient de la terre. Il n'est plus que de la terre. Et la dimension céleste est partie. Il devient uniquement homme animal. Et c'est d'ailleurs typique de voir que l'homme moderne qui a complètement bouclé la boucle, si j'ose dire, rejetant Dieu, donc rejetant tout ce qui vient du ciel, est véritablement redevenu animal, animal parmi les animaux. C'est tellement vrai qu'il prétend descendre des animaux. Il se veut apparenter aux animaux par la doctrine de l'évolution, qui est une doctrine antibiblique. Et ça, c'est très facile de le démontrer bibliquement. Dieu fait les animaux selon leur espèce. Ça veut dire dans une spécificité. Dans une spécificité qui fait que, eh bien, ils vont transmettre à leurs descendants uniquement les caractères qui sont propres à cette espèce. Les plantes aussi, les arbres, la végétation est faite selon son espèce. Elle obéit aux mêmes lois. Donc ici, nous voyons l'homme objet d'une création spécifique de la part de Dieu. Et le texte biblique résume cela en disant, eh bien, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Or, littéralement, le texte biblique dit ceci, à notre ombre, Betselem à Elohim, à notre ombre. Et ça, c'est très intéressant. Car l'ombre, notre ombre, est une image de fait, une image imparfaite, mais une image quand même. Selon cette image-là, elle n'existe pas sans la réalité. C'est-à-dire que quand vous voyez l'ombre de quelqu'un, vous savez que ce quelqu'un-là n'est pas loin. Et si le quelqu'un disparaît, l'ombre disparaît avec lui. Et là, précisément, cette expression « l'ombre de Dieu », « l'homme est l'ombre de Dieu », signifie que l'homme ne peut pas exister sans Dieu. De la même manière que l'ombre ne peut pas exister sans la réalité, de la même manière, l'homme ne peut pas exister sans Dieu. Il n'a son existence qu'en Dieu. Et lorsqu'il est séparé de Dieu, que se passe-t-il ? La mort. La mort, c'est la séparation. Et l'homme peut être mort quoique vivant, comme nous dira l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, n'est-ce pas ? Mort quoique vivant, ça veut dire séparé de Dieu. Et ce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous mangerez de cet arbre la connaissance, vous mourrez. Ça veut dire que vous serez séparé de Dieu, vous serez séparé des réalités célestes. Et tout le plan du salut de Dieu, c'est justement de rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. Cette harmonie qui a été brisée par l'homme, par la désobéissance, par le péché de l'homme. Et c'est dans cela que l'homme est grand, quand il est dans cette vocation-là. S'il renonce à cette vocation-là, il n'est plus rien. Il n'est qu'un animal parmi d'autres. Il n'est qu'un roseau, comme disait Pascal. Mais quand il est dans sa vocation, alors il est même supérieur aux anges, comme dira le psaume. Et pourquoi cela ? Eh bien justement parce que les anges sont des créatures du ciel, uniquement du ciel, même s'ils peuvent intervenir ponctuellement et occasionnellement sur la terre, comme nous l'avons vu. Mais l'homme est à la fois de la terre et du ciel. Et c'est cela la grandeur de l'homme. Il est grand parce qu'il est du ciel, il est faible, il est petit parce qu'il est de la terre. Et personnellement, je pense que c'est aussi ce que voulait dire le texte biblique quand il nous est dit que l'homme était nu au commencement. Ça ne veut pas dire seulement qu'il n'avait pas de vêtements. La nudité, dans la parole de Dieu, représente aussi la faiblesse, le dénuement. Souvent, le psalmiste se plaint de cette situation « je suis nu » dans le contexte où il décrit sa pauvreté, sa faiblesse, son incapacité de se protéger, de se défendre. L'homme était nu. Ça veut dire qu'il n'avait aucune défense naturelle. Mais il n'en était pas troublé, parce qu'il était revêtu de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il était protégé par la présence de Dieu. Il était gardé par la présence de Dieu. Et quand il est séparé de la présence de Dieu par le péché, il prend conscience de sa nudité. Ça n'a rien à voir avec le désir sexuel qui serait le péché, comme le disent les catholiques. Ça, c'est vraiment des élucubrations tout à fait bizarres. Mais l'homme prend conscience soudain de son dénuement. Il n'a plus personne pour le garder, il n'a plus personne pour le protéger. Il a peur. Alors il se fait des vêtements, après il va se construire des villes, des murailles pour se protéger. C'est tout un processus qui est engagé. Voyez-vous ? Parce qu'il a cessé de vivre à l'ombre de Dieu. Il a cessé d'être l'ombre de Dieu. Revenons sur la notion d'espèce. Il créa les animaux selon leur espèce. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? C'est une classe d'êtres vivants possédant des caractéristiques communes et qui peuvent se reproduire sans changer ces caractéristiques-là. Voilà la définition d'une espèce. Maintenant, bien sûr, à l'intérieur d'une espèce, il peut y avoir des variétés. Par exemple, vous avez l'espèce chien, qui est spécifique. Et puis, à l'intérieur de l'espèce chien, vous avez des variétés. Vous avez des bergers allemands, vous avez des terre-neuves, vous avez des bassets, vous avez des... etc. Mais tous ces animaux-là appartiennent à l'espèce chien. Donc, ici, nous voyons aussi que, à partir du moment où des espèces différentes se croisent, dans certains cas, ce sont des espèces proches. Elles peuvent se reproduire. Mais leur descendance, elle, sera stérile. Par exemple, vous pouvez croiser un cheval et un âne. Ça vous donnera, je ne sais plus dans quel sens c'est le mulet ou dans quel sens c'est le bardeau, enfin peu importe. Hein, vous vous souvenez de ça ? Je ne sais plus. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le mulet est stérile. Il ne pourra pas se reproduire. Parce que nous avons ici une spécificité qui est brisée. D'ailleurs, c'est interdit dans la parole de Dieu de mélanger des espèces ensemble dans ce domaine-là. Et nous voyons que sur le plan de la théorie de l'évolution, jamais le fameux chaînon manquant n'a été découvert, et pour cause, on ne le découvrira jamais parce qu'il n'existe pas. Alors qu'il y ait entre les espèces des parentés morphologiques, mécaniques ou autres, ça c'est normal. Vous avez aussi des familles animales. Par exemple, je parlais du chien tout à l'heure. Bon, ben, le chien appartient à toute une famille dans laquelle vous trouvez le loup, le renard. Je ne sais pas si le chacal appartient aussi à cette famille-là. Enfin, c'est des animaux qui sont proches. Vous avez la famille des félins avec les chats, les lions, les tigres, les panthères, etc. Ce sont des familles. Mais dans chaque famille, il y a des espèces qui sont des espèces spécifiques. Et si vous avez effectivement des espèces qui vont du plus simple au plus complexe, cela ne signifie pas qu'il y ait une évolution dans le sens qu'il y ait passage d'une espèce à l'autre, mais de ce qu'il y a effectivement dans le domaine de la création de Dieu, une complexité qui va croissant. Ça oui, c'est possible. C'est vraisemblable même, n'est-ce pas ? Donc ici, nous voyons ce qu'avait été la condition originelle de l'homme. Donc l'image visible de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons l'image de Dieu ? L'image de Dieu dans son être spirituel, ça c'est certain. L'est-il aussi dans son être physique ? Certains l'ont prétendu. Certains l'ont prétendu, même dans le judaïsme. Je n'en suis pas personnellement persuadé, je ne vois personnellement pas de textes qui permettraient de le soutenir. Et les textes auxquels on se réfère d'habitude, la main de Dieu, les yeux de Dieu, etc., les bras de Dieu, me semblent plus être des images que des réalités à prendre littéralement. Peu importe, même si cela a été, cela ne changerait pas grand-chose. La chose essentielle, c'est de nous tenir à ce qui est écrit, savoir que l'homme est l'image de Dieu. Et parce que l'homme était donc ici le représentant d'une espèce, nous ne pouvons pas dire que les anges étaient une espèce, parce que les anges ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent pas pour une raison fort simple, c'est qu'ils sont éternels. C'est pourquoi ce fameux débat byzantin sur le sexe des anges est complètement stupide, n'est-ce pas ? Les anges n'ont pas de sexe parce qu'ils ne se reproduisent pas. Mais l'homme, donc, était le représentant d'une espèce. Et c'est pourquoi, par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Il y avait là, en Adam, l'espèce tout entière qui était représentée et qui ensuite déterminait la position actuelle de l'homme devant Dieu. Et le résultat de cette situation, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que cette nature de l'homme, cette nature qui était à la fois terrestre et céleste, a été corrompue par le péché, pour que ce soit la nature terrestre qui domine et qui éteigne et qui tue, en quelque sorte, la nature céleste. Et ce faisant, l'homme est esclave du péché et du prince de ce monde. Paul dira que nous étions tous des enfants de colère par nature. Et ceci est très important de le souligner, parce que cela s'oppose à l'idée moderne, qui est maintenant, je dirais, diffuse dans notre société, qui est une évidence qui va de soi, à savoir que l'homme est naturellement bon. Bon, déjà, des philosophes grecs avaient eu cette prétention, mais à l'époque moderne, c'est Jean-Jacques Rousseau, philosophe, qui a eu le premier cette affirmation de la bonté naturelle de l'homme. Et s'il y a mal sur la terre, ce n'est pas que l'homme soit mauvais, mais c'est tout simplement que les conditions dans lesquelles il se trouve placé sont mauvaises. C'est son éducation qui est mauvaise, c'est son environnement. Il n'a pas la possibilité de s'épanouir, il n'a pas la possibilité de voir ses besoins être comblés, il n'a pas la possibilité de donner toute sa mesure. Mais qu'on le mette dans des conditions où, précisément, il pourra, comment dirais-je, être en symbiose avec son milieu naturel, et le monde deviendra un paradis sur terre. Bien, cette idée est une idée qui court aujourd'hui partout. Et dernièrement, je recevais une brochure de Church and Peace, là, que Marc connaît bien. Il y avait leur déclaration de foi, j'étais étonné de voir que le premier point, c'était que l'homme est naturellement bon. Comprenez, il pourra, mais c'est comme ça. Or, la Bible ici est claire. L'homme a été créé bon, et même très bon, mais il a péché, il a été corrompu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont des enfants de colère dans leur nature. Ceci étant dit, quelle est cette nature de l'homme ? Nous avons vu que la divinité était une et trine. Eh bien, nous retrouvons aussi cette triunité dans le domaine de l'homme. L'homme est à la fois une unité à l'image de Dieu, mais il est composé, je dirais, de nature, d'éléments différents. Selon Genèse 2, verset 7, le texte sur lequel nous sommes arrêtés il y a un instant, il y a deux substances dans l'homme, la substance matérielle et la substance spirituelle, c'est-à-dire le corps et l'âme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, l'aspect matériel. Il souffla dans ses narines un esprit de vie, la substance spirituelle. Mais Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ou Hébreux 4, verset 12, nous voyons que l'homme est composé de trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Bien, quels sont justement ces trois éléments ? Le corps, on peut le situer facilement. C'est la substance matérielle de l'homme. C'est aussi ce qui fait partie de notre être. Nous sommes notre corps. C'est évident. Et alors, on reconnaîtra assez facilement qu'à côté de cela, il y a une substance spirituelle que l'homme moderne appellera plus spirituel parce qu'il ne croit plus au spirituel, mais qu'on appellera le psychisme, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas ? Bien, or là aussi il nous faut prendre garde, parce que cette notion d'une nature matérielle et d'une nature spirituelle dans l'homme, c'est quelque chose qui nous vient de Platon. Vous allez me dire, la Bible en parle aussi, nous allons voir dans un instant quelle nuance elle fait et que Platon ne fait pas. Et là, précisément, il y a une hérésie qu'on trouve dans l'Église chrétienne jusqu'à nos jours, catholique en particulier, mais même parfois certains protestants inconsciemment réagissent de cette manière-là, parce que ça, ce sont des notions, si vous voulez, philosophiques, obligé d'en faire un peu, qui sont diffuses, qui ne sont pas toujours explicitées, mais qui sont là. Or, selon Platon, selon les philosophes grecs, nous avons donc ce dualisme entre la matière et l'esprit. Et pour Platon, la matière, c'est le mal. Ce qui est matériel est mauvais. Ce qui est spirituel, au contraire, est bon. Là, nous ne sommes plus du tout dans la vision de Rousseau. C'est tout à fait différent. C'est une autre vision philosophique de l'homme. Et alors, si l'homme est mauvais, c'est dans sa nature terrestre, c'est dans son corps, mais l'âme est bonne. Et c'est pourquoi la mort est une bonne chose, car la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et à la mort, l'âme, échappe à cette misérable prison de terre, pour rejoindre les purs esprits dans les sphères célestes. Ça, c'est la doctrine de Platon. Par conséquent, les Grecs n'attendent pas de résurrection. C'est même un scandale, parler de résurrection. Car quoi ? Revenir dans une chair matérielle, après que l'on ait atteint les sphères des purs esprits, mais c'est... ce serait une régression formidable. Et c'est pour ce qui vous explique, entre parenthèses, l'opposition des Corinthiens à l'idée de la résurrection. Pourquoi Paul, dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, est obligé de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la résurrection ? Paul dit non, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Mais les Corinthiens, qui étaient des Grecs, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tous lu Platon, bien sûr. Mais ils étaient marqués par cette pensée. Et pour eux, la survie de l'âme leur suffisait amplement. Bon. Or, l'Église catholique, qui a été marquée justement par la philosophie grecque, a peu ou prou gardé ce dualisme-là. Et il y a cette idée que l'âme est immortelle, qui est une idée tout à fait platonicienne, qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Et par conséquent, il faut sauver l'âme. Peu importe le corps, même si dans l'Église catholique on croit à la résurrection, mais c'est le salut de l'âme, l'âme immortelle, l'âme qui doit être sauvée des flammes de l'enfer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a même dans nos milieux évangéliques, peu ou prou cette notion. Je pense par exemple à un cantique qu'on trouve dans le recueil des ailes de la foi. Nous ne le chantons pas, et pour cause, je m'y opposerai personnellement. C'est un cantique qui nous dit ceci. Ai-je jour comme un fil qui se brise, mon âme au ciel s'envolera. Au lieu d'une prison d'argile, Dieu m'offre un palais glorieux. Ah, c'est exactement la vision de Platon. Au lieu d'une prison d'argile, mon corps est une prison d'argile. Et quand interviendra la mort, eh bien, mon âme s'envolera au ciel dans ce palais glorieux que le Seigneur me donnera. Pourquoi alors attendre une résurrection ? N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi cette anthropologie-là n'est pas une anthropologie biblique. Et là, nous voyons combien nous en sommes infectés. Je me souviens de ce que disait précisément ce rabbin qui avait cru en Jésus, que j'avais rencontré l'an dernier en Israël. Il attaquait un petit peu cette notion, il l'attaquait même très fort, en disant, vous, les chrétiens, vous êtes orientés vers la mort. Et vous remarquerez, par exemple, comment justement dans notre hymnologie, notamment celle des ailes de la foi, cette notion est très forte. Il est de très très nombreux cantiques qui évoquent la mort comme une délivrance, la mort comme l'occasion de rejoindre justement les sphères éthérées, etc. C'est tout à fait platonicien, tout à fait grec. C'est pas biblique. Et ce rabbi Simcha me faisait remarquer, disons, mais enfin, bibliquement et dans le judaïsme, c'est la vie. Dieu est un Dieu de vie, pas un Dieu de mort. Nous n'attendons pas la mort. Nous attendons, comme dira l'apôtre Paul, que la mort soit engloutie dans la vie, par la résurrection, justement. C'est ça, l'espérance du chrétien. Et je me souviens peut-être d'avoir entendu, peut-être d'entre vous aussi, cette méditation de Butler, qu'on a sur une cassette, qui raconte comment, jeune enfant, sa grand-mère qui était chrétienne, lui parlait constamment de cette belle maison qu'elle aurait dans le ciel quand elle partirait avec le Seigneur, et combien elle voulait partir avec le Seigneur, combien elle était impatiente de partir avec le Seigneur, etc. Alors qu'on... Un jeune de, je sais pas, quel âge pouvait avoir, 5-6 ans, un peu plus, je sais pas, bah oui, bon, bah très bien, il discutait pas, lui. Et voilà qu'un jour, la grand-mère tombe malade. Et le petit se dit, bah ça y est, elle part avec le Seigneur, quoi. Et la grand-mère l'appelle, lui dit, va-t'en chez le pharmacien m'acheter des médicaments. Alors là, il comprenait plus. Pendant qu'il allait acheter les médicaments pour la grand-mère, il dit, c'est même formidable. Ma grand-mère parle constamment de ce moment où elle veut partir avec le Seigneur. Puis voilà qu'elle a l'occasion de le faire, elle m'envoie chercher des médicaments pour pas y aller. Vous comprenez plus ? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette vision platonicienne des choses. Alors, il nous faut revenir à ce que dit la Bible. La Bible nous parle de corps, certes, mais il nous parle aussi de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire deux modes d'opération différents de la nature spirituelle de l'homme. Et précisément, ce qui est très difficile, c'est de faire la distinction entre l'une et l'autre. C'est pourquoi la confusion est faite et qu'on s'attache souvent à un dualisme, comme je disais tout à l'heure. Souvent, ces deux réalités sont tellement imbriquées l'une dans l'autre que même dans le texte biblique, c'est souvent employé l'un pour l'autre. Or, la Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, que c'est seulement la parole de Dieu, l'épée aiguë à deux tranchants, qui divise les jointures et les moelles, qui est capable de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette différence entre l'âme et l'esprit ? L'âme, c'est le principe de vie. Eh bien, reprenons les trois degrés. Le corps, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir la conscience de son environnement, du monde qui l'entoure. Parce qu'il a un corps, il a conscience du monde. Quand nous sommes privés de notre corps dans la mort physique, nous ne sommes plus conscients du monde qui nous entoure. Parce qu'il a une âme, l'homme est conscient de lui-même, comme les animaux sont conscients d'eux-mêmes. Et parce qu'il a un esprit, l'homme peut avoir conscience de Dieu et connaissance de Dieu, L'esprit, c'est un organe de l'âme, si vous le voulez. C'est pourquoi c'est si étroitement lié. C'est un organe de l'âme qui lui permet d'entrer en communication avec le ciel. Parce que nous l'avons dit, l'homme est à la fois de la terre et du ciel. Et c'est dans l'esprit, dans son esprit, qu'il peut avoir conscience des réalités célestes. Et je dis bien des réalités célestes. Car les animaux peuvent être conscients de la présence démoniaque, nous l'avons vu. Et même ils peuvent être possédés. L'exemple des pourceaux de Gadara le montre. Mais les réalités célestes, les animaux n'en sont pas conscients. Parce qu'il leur manque cet organe qu'est l'esprit. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a, si vous voulez, homme, il y a toujours, comment dirais-je, un élan vers le ciel, une notion de ce que les philosophes appellent la transcendance. Ça veut dire de ce qui est au-delà de l'humain, de ce qui est au-delà de la terre. Et par exemple, chez ces êtres dégénérés, car pour moi ce sont des êtres dégénérés, qu'étaient les hommes de Cro-Magnon par exemple. Je ne suis pas d'accord avec la datation. Eh bien, nous voyons que ces gens-là avaient un sens du divin. Ils enterraient leurs morts et ils plaçaient des offrandes dans les tombes de leurs morts, ce qui montre bien qu'ils avaient une notion vague de la transcendance. C'est ce que dira l'Ecclésiaste quand il dira « Tu as mis en eux la pensée de l'éternité ». Les peuplades les plus primitives, les Australopithèques d'Australie ou d'ailleurs, ont naturellement, spontanément la notion de Dieu. Mais cet organe, si j'ose dire, qu'est l'esprit de l'homme, qui est aussi l'élément essentiel de l'image de Dieu en lui, est atrophié par le péché. Vous savez, comme quand vous avez un membre atrophié parce qu'il ne sert pas. Et c'est pourquoi cet esprit de l'homme qui est captif dans la mort par le péché l'amène à avoir une notion fausse de Dieu. Comme Paul l'expose dans le premier chapitre des Romains, quand il nous dit « Les perfections de Dieu, sa gloire, sa puissance, se voient à l'œil nu dans la création. » Vous connaissez ce texte, il est fondamental. Nous disions tout à l'heure « L'homme est la conscience du monde. » C'est-à-dire que l'homme lève les yeux vers la nature. Comme disait le psalmiste, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'animal, il lève les yeux vers les mêmes réalités. Il a les yeux comme nous pour voir la lune, les étoiles, les montagnes, les vallées. Il voit les mêmes choses que nous. Mais ça ne va pas plus loin. Mais l'homme, lui, quand il voit ces choses, il voit les perfections de Dieu. Et soudain, il s'éveille à cette pensée de Dieu, cette pensée de l'éternité. Parce qu'il a justement cette dimension que l'animal n'a pas, qui est celle de l'esprit. Alors les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu, pour tout homme. Mais, parce que leur esprit était captif dans la mort, dans le péché, les hommes ont changé en image la gloire invisible du Créateur. Et ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est la marque de l'esprit de l'homme corrompu, qui, en quelque sorte, s'approprie Dieu, le rabaisse, je dirais, à sa dimension. Ça, c'est le péché. Et il faut précisément qu'il y ait une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y ait création d'un esprit nouveau dans le cœur de l'homme. Soudain, cet esprit captif dans la mort va être libéré par l'Esprit de Dieu pour qu'il soit capable de prendre conscience du Dieu de vérité, du Dieu qui vient vers lui dans sa révélation. Voyez-vous ? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. L'esprit de l'homme, c'est le centre et la source de sa vie. L'âme se sert de cette vie. Elle l'exprime au moyen du corps. L'âme, pourrait-on dire, c'est un esprit qui est revêtu d'un corps. Et l'esprit humain s'exprime au travers du corps. Et c'est pourquoi l'âme de l'homme survit à la mort, parce qu'elle reçoit de l'esprit son énergie. Tandis que l'âme des animaux ne peut pas survivre à la mort. Et c'est l'esprit qui distingue l'homme de toutes les créatures. L'esprit donne à la vie humaine son intelligence. Proverbe 20, verset 27. Job 32, verset 8. Et c'est la raison pour laquelle les animaux ne peuvent pas, nous disons-nous, connaître les choses de Dieu. Maintenant, quand l'esprit de l'homme est habité par le Saint-Esprit, son esprit, l'esprit de l'homme, donc devient un centre d'adoration. Jean 4, verset 13, verset 23. L'adoration en esprit et en vérité. Et l'homme répond à sa vocation d'être la conscience de l'univers, d'être cet être qui rend grâce à Dieu pour l'univers, pour ce qu'il est. Ce qui a amené David à dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous connaissez ce texte. Il prend conscience de la merveille qu'est son propre corps. Il prend conscience de la merveille de ce qu'est l'univers. Et par l'Esprit, il peut prier et bénir Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 15. Maintenant, l'Esprit de l'homme est ce qui donne à l'homme aussi son caractère. L'Esprit de l'homme peut avoir toutes sortes de caractéristiques. De la même manière que chaque être humain est unique dans son corps, dans les traits de son visage, qui font qu'il peut y avoir des milliards d'êtres humains, mais chaque être humain est unique. Vous savez comment c'est vrai, même au niveau des empreintes digitales, c'est pas, aucune empreinte digitale n'est semblable à une autre. Ça paraît incroyable, mais c'est ainsi. Et bien de la même manière, l'esprit de l'homme est unique. Il a ses caractéristiques, ses tendances. Même si ces tendances se retrouvent. L'esprit peut être hautain, il peut être pervers, il peut être léger, il peut être emporté, il peut être humble et il peut être contrit. N'est-ce pas ? Et notre esprit peut passer par toutes ces nuances-là. Et c'est pourquoi nous sommes invités à gouverner notre esprit et non pas d'être gouvernés par notre esprit. Si vous voulez, par notre caractère, notre nature, ce qu'on appelle la nature de chacun. N'est-ce pas ? Or, ceci est impossible à l'homme naturel. L'homme naturel est dominé par son esprit. Et pour le dominer, pour que nous dominions, nous contrôlions notre propre esprit, il faut un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il faut que Dieu ait changé notre esprit et mis en nous son Saint-Esprit. Et cela se fait par la repentance. Ça veut dire que l'homme nouveau, l'homme régénéré, peut dominer sa nature et ses instincts charnels. C'est parce que l'homme est captif par son esprit qu'il a besoin d'un esprit nouveau auquel cas il devient alors un homme spirituel. Si au contraire il est conduit par ses instincts, ses passions, sa nature, il est un homme charnel. Ou encore, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, il est un homme animal. Vous savez ce qui est le propre du psychisme animal? C'est l'instinct. L'animal est conduit par ses instincts. Il a faim, il mange. Un loup a faim, il va se jeter sur l'agneau, il le mange. Vous ne pouvez pas dire qu'il fait un péché. C'est son instinct de loup de le faire. Il le fera. L'instinct peut avoir des choses très positives. Voyez l'instinct maternel chez les animaux. Voyez l'instinct qui amène, qui enseigne tout naturellement à l'oiseau comment faire son nid. Personne ne lui a appris. Mais de génération en génération, les oiseaux vont refaire le même nid avec la même science. Les abeilles vont fabriquer leurs ruches, les alvéoles, le miel. C'est l'instinct. L'homme aussi a des instincts, comme les animaux, parce qu'il est psychique, moins développé. Mais il a des instincts. Seulement, parce qu'il est esprit, l'homme peut contrôler ses instincts. Et c'est dans cela qu'il était appelé à contrôler ses instincts. L'instinct, c'est la recherche d'un bien immédiat. Mais l'esprit de l'homme, parce que justement il lui permet de prendre du recul, lui permet de voir aussi qu'une satisfaction immédiate peut engendrer un mal plus grand après, pour lui ou pour les autres. Et l'homme est rendu capable par son esprit de refuser un bienfait immédiat, un bien immédiat, même au prix d'une souffrance passagère, d'une privation, d'une frustration passagère, pour rechercher un bienfait plus lointain et plus grand, plus durable. Et c'est dans cela que l'Esprit de Dieu vient l'éclairer. L'Esprit de Dieu va lui montrer que précisément, il vaut la peine de renoncer à telle ou telle satisfaction à laquelle le pousserait son instinct pour rechercher un bienfait plus grand pour lui ou pour les autres. Mais pour cela, il faut véritablement l'Esprit de Dieu. Sinon, l'homme retombe sous le domaine des instincts et des passions. Ce que dit l'apôtre Paul. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et pour cela, il faut que cet homme spirituel soit constamment renouvelé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes, mais c'est, comment dirais-je, dans le flot toujours renouvelé et incessant du Saint-Esprit, que l'homme peut recevoir la vision céleste de ce qui est le meilleur et avoir aussi la force de dire non à ses instincts, à ses passions et à ses désirs pour rechercher ce qui est le meilleur aux yeux de Dieu. Donc, voilà ce qui concerne l'esprit. Deuxième point maintenant, l'âme. L'âme humaine. L'âme humaine, c'est la nature de l'homme. C'est le principe intelligent qui donne la vie au corps, nous l'avons vu il y a un instant. Ce sont les sens corporels qui aident l'âme à explorer les choses matérielles qui l'entourent, qui aident l'âme à s'exprimer et à communiquer avec le monde extérieur. Cette âme, elle est consciente. L'âme des plantes n'est pas consciente. Les plantes ont une âme, bien évidemment, puisqu'elles vivent. Mais elles ont une âme inconsciente. Elles ont un psychisme aussi, inconscient. Et c'est ainsi que les plantes sont attirées tout naturellement vers la lumière. Et il y a une expérience qui est facile à faire. On prend une plante et vous la mettez, par exemple, près d'une source de lumière. Et voyez que ses branches vont pousser vers la source de lumière. Déplacez-la. Mettez-la dans une autre orientation, eh bien ces branches vont se pencher en sens inverse à la recherche de la lumière. Ce qu'on appelle le tropisme. Ce qui trouve bien qu'il y a un psychisme, mais il est inconscient chez les plantes. Chez les animaux, il est conscient. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que l'esprit de l'homme donne à cette âme de s'exprimer par la parole. Ça, c'est fondamental. C'est Descartes, philosophe français, qui a le premier noté cela. Descartes s'était penché sur la différence qu'il y avait entre les animaux et l'homme. Et Descartes, qui avait un esprit simplificateur, finalement disait « ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la parole ». Il avait raison. Et pour lui, il voyait les animaux comme des machines perfectionnées. Il n'avait pas tout à fait tort. Car de fait, les animaux sont des êtres qui sont programmés par l'instinct pour accomplir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec l'informatique, on comprend ça de mieux en mieux. Mais l'homme est doué de la parole. Et qu'est-ce que c'est la parole ? Et la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. La parole, c'est aussi l'image de Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est pourquoi la possibilité pour l'homme de parler est fondamentale. Vous avez ce texte magnifique dans le deuxième chapitre de la Genèse, où donc Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et Dieu donc fait venir vers l'homme tous les animaux pour voir le nom que l'homme leur donnerait. Ça veut dire que, à l'image de Dieu, l'homme nomme les animaux. Il les appelle, il leur donne un nom. Ça veut dire qu'il a un pouvoir sur eux que les hommes n'ont pas, que les animaux n'ont pas. Et par exemple, toute la science zoologique est celle-là. Classer les animaux par famille, les insectes, les mammifères, les poissons, les oiseaux, puis à l'intérieur des insectes, les coléoptères, les lépidoptères, les hyménoptères, etc. Hein ? Ça n'a pas changé depuis les origines. L'homme est toujours à observer les animaux, à leur donner des noms. Ça veut dire qu'il est plus grand qu'eux. Et Dieu dit domine sur les animaux, parce qu'il les appelle, comme Dieu appelle l'homme, par son nom. C'est Dieu qui donne à l'homme le nom d'homme, le jour où il le crée. Mais il nous a dit, l'homme, parmi tous les animaux, ne trouva pas une aide semblable à lui. Parce que aucun animal n'était capable de parler. Mais quand la femme est créée, il a une aide semblable à lui, parce qu'il y a une communication possible par la parole. Voyez-vous ? Et Jacques Ellul a raison de souligner précisément cette primauté de la parole et montrer précisément comment notre siècle, qui revient au chaos primitif, qui détruit l'image de Dieu dans l'homme, le fait en détruisant la parole. Et le titre qu'il avait donné à ce livre, « La parole du milieu » est très juste. Car quand on anéantit la parole dans l'homme, on anéantit la pensée. Et Descartes avait eu cette parole très forte, vous connaissez tous, peut-être même la connaissez-vous en latin, « Cogito ergo sum »,« Je pense, donc je suis ». Et comment est-ce que je pense ? Je pense parce que je parle. Et quand je pense, je me parle à moi-même, n'est-ce pas ? Sans parole, pas de pensée possible. Et aujourd'hui, on détruit la pensée parce qu'on détruit la parole. La parole est remplacée par les images. La parole est remplacée par les actes. Alors il n'y a plus de pensée. Il y a destruction un peu plus encore de l'image de Dieu dans l'homme. Et il y a donc dégénérescence de l'homme vers l'animal. Alors vous me direz, il y a des animaux qui parlent, des perroquets, etc. C'est très différent, c'est une parole mécanique qui n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir. C'est une imitation. Et là, nous voyons précisément que la pensée qui est rendue possible par la parole est le principe d'individuation qui fait de l'homme une personne. C'est parce qu'il parle que l'homme est une personne, à l'image de Dieu. Autrement, il ne serait qu'un représentant de l'espèce humaine. Vous prenez un chien, c'est un chien. C'est un représentant de l'espèce canine, c'est tout. Vous prenez un homme, c'est pas seulement un homme. C'est monsieur un tel, c'est madame une telle. Elle a ce qui la caractérise, ce qui fait d'elle un être unique. Et qui fait que, précisément, elle est aussi du ciel et participera donc à l'éternité, d'une manière ou d'une autre. Soit dans le lieu de tourment, soit au contraire dans la présence du Seigneur. Et c'est aussi la raison pour laquelle les anges n'ont pas d'âme. Les anges peuvent parler. Ils parlent. Mais ils n'ont pas d'âme. Pour communiquer avec le monde ambiant, ce monde terrestre en tout cas. Bien, on va peut-être s'en tenir là pour ce soir. On verra la prochaine fois l'origine de l'âme.